les animaux sont frères. Maintenant et à jamais, les animaux sont tous égaux. L'heure a sonné de la révolte.
Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle série du Fil de l'Histoire. Cette semaine, on parle de compagnons longtemps négligés. Les animaux font-ils partie de notre histoire? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine, du lundi au vendredi à 14h50, à podcaster chronique après chronique. Longtemps, l'histoire racontée et écrite ne fut celle que des grands hommes, des pays dominants et des grands événements. Elle s'est ensuite peu à peu ouverte aux sans-grades, qu'étaient les pauvres, les colonisés, les ouvriers, les paysans, les vaincus, les fous, et même les femmes et les enfants. Depuis quelques décennies, de nouveaux grands oubliés, d'un coup de museau, de patte ou de plume, sont entrés discrètement dans les livres d'histoire, les animaux. Enfin, on se rappelle ceux qui ont longtemps été relégués au rang d'objets, de machines ou de marchandises, et qui pourtant ont toujours accompagné l'humanité. Qu'il s'agisse de nos animaux domestiques, les chiens, les chats, ceux de la ferme, chevaux, vaches, moutons, chèvres, volailles, abeilles, employés à travailler, à faire la guerre ou à nous nourrir, de manière de plus en plus industrielle. Et les animaux sauvages, lions, loups, singes, cerfs, bécasses, poissons, baleines, que les humains ont combattus ou chassés pour leur survie, mais aussi pour leur plaisir, leur gloire ou pour la science. Depuis les trophées de chasse jusqu'aux courses hippiques, en passant par le zoo, le cirque et le laboratoire. Et depuis toujours aussi, les animaux ont enchanté nos imaginaires. Qu'on se rappelle les aurochs des grottes de Lascaux, les ibis d'Égypte, les licornes du Moyen-Âge ou Ganesh, l'éléphant dieu de l'Inde. Entre domination, affection et fascination, de quoi la relation humain-animal est-elle faite et comment a-t-elle évolué au cours des siècles ? L'histoire humaine aurait-elle pu se faire sans les animaux ? De toutes ces questions, parfois troublantes, dérangeantes, nous parlons cette semaine avec vous, Éric Baratet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur à l'Université Lyon 3, spécialiste de l'histoire des animaux.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Père, tu pourrais dire bonjour à notre lassie ? Caresse-la. Tu sais, il est possible qu'on ne sache pas bien la soigner, Ouchni.
C'est vrai qu'elle a maigri. Je vais lui donner quelque chose à manger. Elle aimera ça ou je ne m'y connais pas en chien.
De tous les animaux, le chien est le plus vieux compagnon des humains. Le descendant d'un loup, domestiqué semble-t-il en Eurasie, il y a au moins 10 000 ans. Bien avant le cheval, le mouton, la chèvre ou la vache. Une domestication qui a créé entre ces deux êtres vivants une étonnante relation d'interdépendance. Plus qu'aucun autre animal, le chien est utile à l'humain. Du fait de sa force physique, en particulier sa mâchoire et ses dents acérées, son intelligence et son adaptabilité, le chien aide le chasseur, il garde la maison et le troupeau, il sert d'attelage, doté d'un flair exceptionnel, il aide le paysan à repérer la truffe, le policier, le bandit ou la drogue, déguisé il amuse les enfants au cirque, attentif il guide les aveugles, le chien est donc multitâche. Mais, question existentielle, le chien est-il heureux d'être domestiqué, de vivre dans l'ombre des humains ? Cet animal, le bon chien, symbolise la fidélité, mais aussi par extension la dépendance, voire la servilité. On se souvient de la fable de La Fontaine, Le loup et le chien. La rencontre entre un loup affamé et un chien bien nourri, lui, dont le loup envie l'embonpoint. Brave bête, le chien suggère au loup de devenir chien, donc de se domestiquer. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi. Mais quand soudain le loup aperçoit le cou du chien râpé par un collier, il comprend qu'il vit attaché. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez. Épouvanté, le loup s'en va en courant, car même le ventre vide, il préfère de loin sa liberté à la dépendance du chien. Éric Baratet, quand, comment et pourquoi les humains se sont mis à domestiquer des animaux ? C'était nécessaire à leur survie ?
Disons qu'ils se sont aperçus de l'utilité de la domestication petit à petit, hein, puisque la première domestication, c'est celle du chien, comme vous l'avez dit, entre 15 000 et peut-être 30 000 ans, selon l'archéozoologie ou la génétique, les dates varient, mais c'est de loin l'animal le plus anciennement domestiqué. Alors pourquoi l'a-t-on domestiqué on ne sait pas. Peut-être pour la chasse, hein, c'est l'opinion la plus répandue, mais il se peut aussi que la domestication se soit faite à l'envers, c'est-à-dire que ce soit les chiens qui se soient aperçus de l'intérêt de poursuivre ou de suivre les chasseurs humains, parce que bah, derrière, il y avait des choses à grignoter, des carcasses laissées, etc., etc. Et en fait, la domestication, quelle que soit l'espèce, ne peut se faire que si les deux parties trouvent un intérêt. Il ne faut pas penser la domestication comme un ordre imposé à l'animal qui serait totalement passif, un objet, etc. Il y a plein de domestications qui ont échoué parce que justement, ça n'apportait rien à l'animal. Dans le cas du chien, par exemple, manifestement, les loups qui se sont laissés apprivoiser, puis ensuite domestiqués, ont trouvé un intérêt. L'intérêt a été réciproque. Et sans doute, ensuite, la deuxième vague de domestication, ce sont autour de 10 000 ans, il y a 10 000 ans à peu près, ce sont les bovins, les moutons, les chèvres, etc. Sans doute, y a-t-il eu un intérêt réciproque, et pareil, par exemple, pour les chats, il y a 4-5 000 ans. Il y a sans arrêt des allers-retours. Hein, par exemple, les chevaux de Przewalski, hein, qu'on a longtemps cru comme étant les derniers chevaux ensauvagés, ce sont les descendants des premiers chevaux domestiqués. Par le peuple Botaï, qui a domestiqué pour la première fois des chevaux, et puis cette domestication s'est arrêtée. Le peuple Botaï a disparu et ses chevaux sont redevenus sauvages.
Quand est-ce que les humains pratiquent vraiment l'élevage ? Est-ce que c'est lié à la sédentarisation et au développement de l'agriculture ?
Oui, ça va de pair. Hein. Alors, sans doute les choses, là aussi, il ne faut pas penser que il y a eu une domestication rapide ou une mise en agriculture rapide. Hein. Manifestement, on s'aperçoit que maintenant, avant, par exemple, d'avoir des plantes vraiment cultivées, on avait déjà des récoltes de plantes sauvages et puis on a sélectionné ces plantes, etc. Et pareil pour les animaux. Il y a sans doute eu des phases d'apprivoisement avant qu'il y ait domestication pure. Mais c'est vrai que, à part le chien, tous les autres sont parallèles à la sédentarisation. C'est ce qu'on appelle la révolution néolithique, hein, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage et les villages.
Est-ce qu'il y a une relation peut-être plus intime entre le chien, le chat et l'humain, cette relation qui peut exister d'affection ?
Alors, ça dépend des époques. De nos jours, elle est très forte, hein, en Occident, avec nos chats de compagnie, nos chiens de compagnie. Mais il faut se rappeler qu'il y a pas moins de un siècle, deux siècles, il y avait encore beaucoup de chiens errants en Europe. Il y en a encore beaucoup dans les autres continents. Et ces chiens errants vivaient à côté des hommes, hein, dans les villes ou dans les villages, mais pas avec les humains. Donc tout dépend des époques. Il y a des époques où le chat, par exemple, dans l'Égypte antique, le chat est très proche des humains, et inversement, hein, c'est là qu'apparaît le chat de compagnie. Et puis il y a d'autres époques, comme le Moyen-Âge occidental, où au contraire, le chat est diabolisé. Alors, il est toujours là, il est omniprésent dans les maisons parce que on le tolère pour chasser les souris et les rats, mais on ne veut aucune relation avec lui, on ne lui parle pas, on ne le nourrit pas. On a des listes d'animaux domestiques à la fin du XVe siècle. On a toujours le chat à la fin, en bas de tous les animaux domestiques. Le premier, c'est le cheval ou le chien, puis ensuite les autres animaux, et le dernier, c'est le chat. D'ailleurs, au Moyen-Âge, il y a un proverbe très répandu à l'époque qui disait qu'il y avait toujours une occasion de battre son chat. Les relations étaient très froides, mais on voulait qu'elles soient comme ça, pour que le chat soit utile. Aucune relation. Les humains ne comprenaient pas et ne cherchaient pas à comprendre les chats. Tous ces animaux, y compris les chevaux, etc., et y compris les animaux sauvages dans leur environnement, eh bien, ces animaux s'adaptent à l'environnement dans lequel ils vivent. Et donc, pour les animaux domestiqués, ben, il faut qu'ils s'adaptent aux humains qui changent sans arrêt dans leur mentalité, dans le contexte économique, social, etc. Ouais. Donc on a un changement réciproque.
Merci Éric Baratet. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la place des animaux au Moyen-Âge et à la Renaissance.